Pour ce matin, j'aimerais partager un message qui a pour titre Là où personne n'est seul. Un samedi matin, en février, j'ai été touché par un chant. Un chant qui a passé à la radio qui s'appelle Where No One Stands Alone. Là où personne n'est seul. Un chant composé par Elvis Presley, 1967, ça ne nous rajeunit pas forcément. Un chant repris par différentes chanteuses et chanteurs, par des évangéliques aussi, par exemple le groupe Gator Vocal Band. Je vous lis une version des paroles en français. Une fois, je me suis tenu dans la nuit, la tête baissée. Dans l'obscurité la plus noire qui soit, et mon cœur s'est senti seul, et j'ai crié, « Ô Seigneur, ne me cache pas ton visage. Comme un roi, je peux vivre dans un palais si grand, avec de grandes richesses que je peux appeler les miennes. Mais je ne sais rien. Dans ce vaste monde, c'est pire que d'être seul. Tiens-moi la main tout au long du chemin. Chaque heure, chaque jour, viens ici dans le grand inconnu. Prends ma main, laisse-moi me tenir là où personne n'est seul. Prends ma main, laisse-moi me tenir debout là où personne n'est seul. » Un chant qui exprime le désir de la présence de Dieu. Les parents d'Elvis fréquentaient une église pentecôtiste. Et la première leçon de musique qui lui sont données par deux de ses oncles et par le pasteur de l'église de la famille. Le goût d'Elvis pour la musique est né dans une église. Durant son adolescence, il a développé une passion pour l'apprentissage des chansons chrétiennes. Et dans ce chant que nous venons chanter, il dit « Je peux vivre dans un palais avec de grandes richesses. Mon cœur s'est senti seul, j'ai crié, « Ô Seigneur, ne me cache pas ton visage. » Est-ce qu'Elvis a connu la présence de Dieu? Je ne sais pas. Je laisse la question ouverte. Mais j'aimerais ce matin m'arrêter courtement sur trois personnages bibliques qui ont vécu plus particulièrement une expérience de relation avec Dieu. Je vous propose pour ce matin le plan du message avec ce titre « Là où personne n'est seul ». La solitude et ces trois exemples, Joseph, Daniel, David, et pour terminer, pour conclure, joyeux, reconnaissant, prier, reprendre espoir. Là où personne n'est seul. Ce titre peut être perçu comme inconvenant, voire provocateur pour quelqu'un qui vit la solitude. La solitude, ça n'existe pas, proclamait la fameuse chanson de Gilbert Bécaud. Cruelle prétention, quand on connaît sa fréquence et ses méfaits. Dans tous les milieux. La solitude, ce n'est pas banal. La solitude existe. Et la plupart du temps, la solitude n'est pas un choix, n'est pas perçue comme un don. Il y a dans chacune de nos vies des éléments qui ne relèvent pas d'un choix, mais sont imposés par les circonstances. Personne ne choisit de naître homme ou femme. En Occident ou dans le tiers-monde, vigoureux ou fragile, dans une famille harmonieuse ou dans la détresse d'un abandon, on n'y peut rien. Mais on peut affronter cette situation de différentes manières. Demander la grâce de l'assumer. Ou plier devant une fatalité injuste, ou encore rêver à tout ce qui serait différent, bon, agréable. Mais je crois qu'il y a une porte qui est ouverte vers l'espérance d'une vie pleinement vécue, quelles que soient les circonstances. En préparant ce message, j'ai pensé à un vieux chant. Ne crains rien, je t'aime, non, jamais tout seul. Et ce refrain qui revient, non, jamais tout seul, Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. L'exemple de Joseph. Dans l'Ancien Testament, Joseph a expérimenté la présence de Dieu d'une façon particulièrement proche. Vendu en esclavage par ses frères jaloux, ce n'est pas une situation enviable. Les épreuves ne lui sont pas épargnées. Et pourtant, dans le chapitre 39 de la Genèse, on peut lire les versets 2 et 3. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Lorsque quelqu'un connaît Dieu, tout n'est pas gagné d'avance. Il y a parfois des croix à porter. La vie de Joseph n'a pas été facile. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, cette histoire nous montre la fidélité de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Même au cœur de la souffrance, l'Éternel était avec lui. Et dans ce même chapitre 39 de la Genèse, cette expression revient plusieurs fois quand il est en prison, par exemple. Dans les versets 21 à 23, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Un autre exemple, l'exemple de Daniel, un exilé de Juda à la cour de Babylone, emmené étant encore enfant. Daniel dans la fournaise ou dans la fosse aux lions, des histoires que nous connaissons bien, qui sont bien connues. Daniel, qui connaît Dieu, ne peut pas rester inactif lorsque Dieu est bafoué et discrédité. Il ressent l'obligation de faire quelque chose. C'est ce que nous pouvons lire dans les chapitres consacrés au courage de Daniel et de ses trois amis. Ces hommes connaissent Dieu et par conséquent, ils se voyaient forcés en certaines occasions de s'opposer de façon active aux exigences et aux diktats de la fausse religion. Daniel, tout particulièrement, apparaît comme un homme incapable de rester indifférent dans une situation de ce genre. Il se sent obligé de la contester publiquement. Les adversaires de Daniel lui tendent un piège lorsque Darius interdit, sous peine de mort, l'exercice de la prière pendant un mois. Daniel ne se contente pas de continuer à prier trois fois par jour, mais il le fait devant une fenêtre ouverte, en sorte que tout le monde peut voir ce qu'il fait. Daniel au chapitre 6, les versets 11 à 17. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que, trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivèrent en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. Ils se rendirent donc chez le roi et lui dirent, le roi n'a-t-il pas signé un décret prévoyant que, durant une période de 30 jours, quiconque adresserait une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devrait être jeté dans la fosse aux lions? C'est effectivement la décision qui a été prise, répondit le roi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Eh bien, majesté, reprirent ces hommes, Daniel, l'un des déportés du pays de Juda, n'a de respect ni pour toi, ni pour le décret que tu as signé. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Lorsque le roi entendit ces paroles, il en fut profondément chagriné et se mit en tête d'épargner Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardèrent pas à revenir et dire au roi, « Le roi sait bien que, selon la loi des Mèdes et des Perses, un décret ou un règlement promulgué par lui ne peut pas être modifié. » Alors, sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi lui dit, « Seul ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, pourra te sauver. » Lorsque Daniel apprend le décret qui a été signé par le roi, il regagne sa maison. À l'étage, il ouvre les fenêtres orientées vers Jérusalem. Et c'est là, 3 fois par jour, il se met à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fait comme d'habitude. Ses adversaires arrivent, bien sûr, et le trouvent en train de prier. Et bien sûr, ils se rendent chez le roi. Le roi n'a-t-il pas signé un décret? Eh bien, majesté, Daniel n'a de respect ni pour toi, ni pour le décret que tu as signé. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Et lorsque le roi entend ces paroles, il en est profondément chagriné. Jusqu'au coucher du soleil, il cherche un moyen de le sauver. Mais les adversaires de Daniel ne tardent pas à revenir. Daniel n'est pas un homme qui se complaît dans la rébellion ou dans une farouche opposition à l'autorité. Non, il connaît Dieu tout simplement. Il est sensible à ce qui peut mettre en péril la vérité et l'honneur de Dieu. Plutôt que de laisser pourrir la situation, il préfère l'exposer au grand jour, cherchant par là à forcer un changement d'opinion, même s'il faut pour cela encourir quelques risques. Cela dit, ce zèle pour Dieu ne s'arrête pas à des gestes publics. Tout commence par la prière. Ceux qui connaissent Dieu sont avant tout des hommes et des femmes de prière. Et c'est dans la prière que s'exprime d'abord le zèle et l'ardeur pour la gloire de Dieu. Le livre de Daniel nous apprend beaucoup sur la sagesse, la puissance et la vérité du grand Dieu qui dirige l'histoire et manifeste sa souveraineté sur les individus et sur les nations en les jugeant ou en leur faisant miséricorde. Ce livre nous offre une description précise et riche de la réalité complexe de la souveraineté de Dieu. Face à la puissance et à la splendeur de l'Empire babylonien qui avait absorbé la Palestine, le livre de Daniel est, dans son ensemble, un rappel du fait que Dieu est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La main de Dieu qui dirige à chaque instant l'histoire, le développement du plan qu'il a conçu de toute éternité. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, où Dieu très haut, dans une autre version, Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine. C'est la grande vérité que Daniel enseigne à Nebuchadnezzar d'abord, le rappel à Belshazzar, une vérité que Nebuchadnezzar a reconnue et que Darius va finalement confesser. Les prières de Daniel trouvent leur source dans cette même vérité. Elle est aussi à la base de la confiance manifestée par Daniel et ses amis lorsqu'ils bravent les autorités. C'est la toile de fond de toute la révélation ou toutes les révélations que Dieu fait à Daniel. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il sait et il sait à l'avance toutes choses. C'est pourquoi il aura le dernier mot à la fois dans l'histoire du monde et dans la vie de chaque être humain. Son royaume et sa justice triompheront à la fin, car ni les hommes ni les anges ne seront capables de s'opposer à lui. Troisième personnage que j'aimerais citer ce matin, David, le message de David. L'espérance placée en Dieu ou expérimenter la présence de Dieu. David était un homme, un être humain, comme vous et moi. Il avait des conflits, des défis, des ennemis. La plupart du temps, il avait la victoire sur ces situations. Et quand il avait la victoire, il écrivait des psaumes qui parlent de la bonté de Dieu. Certains de ces psaumes sont juste extraordinaires. Et j'aimerais lire ce matin le psaume 62. Du répertoire du chef de chorale, d'après Yedoutan, psaume appartenant au recueil de David. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Le seul est le rocher, lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, aucun risque de faiblir. Jusqu'à quand vous unirez-vous pour assaillir et abattre un homme comme on abat un mur qui penche ou une clôture branlante? Vous ne pensez qu'à lui faire perdre sa place. Vous vous plaisez à mentir. Des lèvres vous bénissez. Au fond de vous-même, vous maudissez. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Vous qui êtes là, fiez-vous toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Les humains, du vent, rien de plus. Les hommes, rien de plus décevant. Sur la balance, à eux tous, ils ne pèseraient pas lourd. Ne vous fiez pas aux méthodes violentes. N'espérez rien de ce qui est pris de force. Si vos ressources augmentent, n'y accordez pas d'importance. Plus qu'une fois, j'ai entendu cette parole de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. À toi aussi appartient la bonté, Seigneur, car tu traites chaque homme selon ce qu'il a fait. David a vécu de nombreuses guerres avec Saül, contre diverses nations et même dans sa propre famille. Il avait de quoi être tourmenté et pourtant, à deux reprises dans ce psaume, il s'exclame « C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille. C'est de lui que me vient le salut. Lui seul est le rocher, la forteresse, où je peux être sauvé. Verset 2. Puis verset 6. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher la tranquillité, car c'est lui qui me donne espoir. Joyeux, reconnaissant, prier, reprendre espoir. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ces trois versets peuvent sonner comme quelque chose d'irréaliste. On peut se sentir sous pression. Est-il possible de faire trois choses en même temps, en permanence, tout en organisant sa vie, son travail, son quotidien? Apparemment, les dames sont plus douées pour faire plusieurs choses à la fois que les hommes, paraît-il. Ces trois versets contiennent une clé qui nous permet de nous connecter à une source d'espoir. Regardons de plus près. La joie et la reconnaissance sont les deux faces d'une même médaille. Et le cœur de celle-ci est la prière. Nous pouvons certes être surpris par la joie, la gratitude, mais il s'agit en même temps d'une décision. Nous pouvons décider consciemment de regarder ailleurs que dans les problèmes ou les soucis du monde, et de regarder à ce que Dieu a promis et à ce qu'il a fait. Nous avons des raisons d'être reconnaissants. Cette reconnaissance nous remplira de joie. Ainsi, en prenant conscience de ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous, nous pouvons nous brancher sur la source de toute joie et reprendre espoir. Prenons conscience de l'avenir glorieux qui nous attend. Apprendre à mener un style de vie basé sur la gratitude. Dans les moments difficiles, la prière en tout temps. Être conscient de la présence de Dieu dans notre vie et vivre dans une relation permanente avec Dieu. Nous rappeler au quotidien que Dieu est à nos côtés, que nous partageons avec lui tout ce que nous vivons, pensons ou ressentons. Une relation avec Dieu vécue au quotidien nous soutient même lorsque les difficultés surviennent. Nous sommes reliés à la source de l'espérance et pouvons puiser l'espoir dans toutes les situations de la vie. Nous pouvons ainsi devenir aussi des ambassadeurs de l'espoir pour notre environnement. Tout un programme. Et j'aimerais pour terminer simplement que ces paroles puissent vous bénir, oui, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accompagne et que vous puissiez ressentir cette présence jour après jour. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te lire notre reconnaissance ce matin. Oui, parce que tu es là, présent dans ce lieu, présent en nous. Et Seigneur, je te prie pour que chacune des personnes ce matin, celles qui ne sont pas là ce matin, puissent sentir, ressentir cette présence. Je te prie, Seigneur, de les bénir, de les accompagner jour après jour, et que ton nom soit glorifié. Louange à toi. Amen.